vous et tous, mesdames et messieurs. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Mon nom est Olivier Larose, on est présent pour le 119e épisode, toujours accompagné de mon cher ami Doualé Ibrahim.
Ouais, comment vas-tu?
Ok, c'est mon début, j'ai une peur. Je pensais au début que tu n'allais pas me répondre. J'ai commencé à avoir peur.
Non, t'inquiète, je suis là. Non, écoute, très content d'être ici à Retour en Force. Puis, il s'en est quand même passé des choses, là, on va revenir, là, mais il y a eu peur. Donc, j'ai très hâte qu'on en parle.
Oui, rentrons directement dans le vif du sujet parce que, oh là là, qu'il s'en est passé des choses, surtout au niveau du hockey. Bien évidemment, c'est les séries éliminatoires, donc on voit beaucoup d'équipes se faire éliminer par crève-cœur. Surtout, bon, on va commencer par, je pense qu'on peut parler de ça, là. On va commencer avec les Maple Leafs de Toronto, qui malheureusement, leur espoir d'aller plus loin en série s'est terminé seulement malheureusement en deuxième ronde. Eux qui ont réussi enfin de briser cette malédiction qu'ils avaient depuis 2004, je pense que mes souvenirs sont bons. Donc, qui ont réussi à briser cette malédiction-là. Mais ensuite, arrive contre les Panthers à Floride et Doualé, je pense que tu peux être sincère avec moi, là, c'est vraiment pas les Maple Leafs de Toronto qu'on a vu en première ronde.
Non, loin de là. Écoute, je trouve que les Panthers ont été la meilleure équipe du début jusqu'à la fin. Sergei Bobrovsky, gardien de but des Panthers, a été extraordinaire cette série-là. Bon, le problème majeur, puis ça, on va être d'accord là-dessus, c'est le fait que le top 4 des Maple Leafs à l'attaque était tout simplement absent dans cette série-là. On parle de Austin Matthews, de Mitch Marner, de John Tavares.
Marner, il s'est quand même bien illustré que match numéro 4, mais numéro 5. Pas été.
Ouais, ben Marner puis Nylander ont été quand même. Donc, ça s'est quand même très bien débrouillé les deux lors des deux dernières rencontres. Mais le problème, c'est que deux joueurs descendent de premier plan du côté des Maple Leafs qui ont vraiment de la difficulté dans cette série-là. Et particulièrement Austin Matthews qui a eu seulement deux passes en 5 games, aucun but, alors que c'est supposé être. Pour plusieurs, il est considéré peut-être comme le meilleur franc-tireur d'intérieur de hockey. Donc, c'est quand même assez particulier et triste à voir parce que le problème, ce n'est pas la production offensive de Matthews, c'est le fait qu'il avait l'air complètement désintéressé sur la patinoire, puis il avait l'air de ne pas vouloir être sur la glace, puis pas avoir ce fameux sentiment de désespoir, surtout quand tu perds 3-0 la série. Normalement, tu es supposé tout donner, tu n'as plus rien à perdre. Donc, malheureusement, pour Austin Matthews, ça a été une série à oublier. Puis pour les Maple Leafs de Toronto aussi, ça a été une série à oublier. Bon, heureusement pour eux, ils ont évité l'humiliation de se faire éliminer en 4 matchs grâce à une victoire au match numéro 4. Mais quand même, ils ont perdu 5 matchs. Puis écoute, quand même, il faut dire le chapeau aux Panthers de la Floride. Là, ils sont arrivés négligés dans la série contre Toronto. On va commencer avec la première. Là. Ils sont arrivés négligés en série éliminatoire. Ça s'est qualifié de justesse comme dernier du wild card. Devait affronter la meilleure équipe de l'histoire de l'intérieur d'hockey à sort régulière, les Blues de Boston. Presque personne donnait une chance aux Panthers de la Floride. Ils perdaient 3-1 dans la série contre la Floride, contre les Bruins. Ont réussi à remonter la pente et à remporter également cette série-là en 7 matchs. Par la suite, ça arrivait contre Toronto. Plusieurs personnes, notamment moi, je m'en excuse, prenaient les Maple Leafs pour les battre. Moi, j'ai même pris assez facilement là, pour remporter cette série-là. Puis, au final, les Panthers ont été de loin la meilleure équipe. Puis, j'ai très hâte de voir dans la prochaine série contre les Hurricanes de Caroline parce que les Panthers, de la manière qu'ils sont partis, ils peuvent facilement se rendre en finale contre Sanin.
Ben, en même temps, quand t'es rendu dans le carré d'as, on doit se l'avouer que tes chances d'aller en coupe finale de la Coupe Stanley sont de 50%. Donc, déjà, si on prend juste le pourcentage, bien évidemment. Moi, surtout, en ce moment, bon, les Maple Leafs, c'est. Je voulais dire, ils sont présentement, donc, ils sont autour de lundi, ils sont en train de faire le post-mortem de tout. Il y a eu une rencontre avec Austin Matthews. Il faut savoir qu'Austin Matthews, son contrat finit pas cette année, l'année prochaine. A dit qu'il voulait rester avec Toronto. C'est ce qui a été mentionné. On a également annoncé qu'Elias Samsonov était blessé. On s'y en attendait aussi. Donc, ouais, blessure au cou. Et que lui, son contrat finit cette année et qu'il veut rester avec Maple Leaf, avec les Maple Leafs de Toronto. Mm-hmm. On verra ce qui va se passer. Mais en effet, lorsqu'on regarde les Maple Leafs, puis tu regardes les signatures qu'ils ont fait, bon, Austin Matthews, c'est l'année prochaine. Mais la question numéro un, c'est est-ce qu'il veut vraiment rester à Toronto?
Ouais.
Parce que s'il ne veut pas
Et...
rester à Toronto,
Mmh.
il faut essayer d'avoir une monnaie d'échange pour lui, puis ça va être probablement le plus gros échange à date limite des transactions s'il ne veut pas rester. J'ai mis
Noir.
le mot. Il
Ouais.
faut vraiment mettre une grosse parenthèse. Puis le mot, il y a même si en gras, puis en majuscule, puis en caractère 50.
Yes.
C'est ça.
Écoute, c'est ouais, c'est tu l'as parfaitement dit. Est-ce
Mais je
qu'Austin
peux le
Matthews
comprendre aussi
va
parce
rester
qu'il
à
est tanné.
Toronto? Ouais. Ben écoute, moi je pense honnêtement, là, si Austin Matthews quitte Toronto l'an prochain, j'ai l'impression que ça va être une déception totale chez non seulement les Maple Leafs, mais surtout chez les partisans des Maple Leafs. T'sais, pendant de nombreuses années, ils ont été mauvais. Là. T'sais, ils ont attendu de nombreuses années pour avoir un joueur vedette depuis l'époque de Matt Sundin au début des années 2000. Puis, ils ont eu le premier choix total en 2016. Austin Matthews, qui pour plusieurs, il est considéré comme un joueur d'exception. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas dans la même catégorie que Connor McDavid ou Leon Draisaitl, c'est clair, mais ce serait une déception totale pour les partisans des Maple Leafs, qui ont attendu de nombreuses années, qui ont vu leur équipe avoir autant de difficultés, puis réussir à avoir des bons joueurs. Là, parce que Mitch Marner, Mitch Marner, c'est quand même, on va se dire, c'est quand même un des meilleurs ailiers dans l'histoire de hockey. T'as William Nylander qui est un très bon joueur. T'avais John Tavares qui, bon, là, il est un peu ralenti, mais ça reste que c'est un excellent centre numéro 2 là, pour une bonne équipe, là, pour une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Donc, ce serait une déception totale du côté de Maple Leafs que l'expérience Austin Matthews ne fonctionne plus. Puis, mais cependant, moi, qu'est-ce que je... si je t'ai Maple Leafs Toronto, c'est clair que si tu as des doutes sur le fait que, ben, si tu as des doutes sur est-ce que Austin Matthews veut rester à Toronto ou pas, ben, tu l'échanges le plus rapidement possible parce que ce serait inadmissible que Austin Matthews part l'an prochain lors de la journée joueur autonome sans. Écoute, sans rien.
Gratuitement, là.
Ouais.
Tu peux le dire littéralement, là.
Gratuitement, là.
Mais là-dessus, doit aller, faut juste une question, puis on dirait que je me jette toujours dans la tête depuis le début, là. Est-ce qu'il y a une personne, un dirigeant ou un joueur, qui va prendre pour tout le monde pour cette défaite?
Ouf. Écoute.
Parce que moi-même, genre, on dirait que je me gratte la tête, puis on dirait que plus ça fait longtemps que j'entends pas parler Karl Dubas, plus je suis en train de me demander s'il va rester.
Moi, je pense que Karl Dubas restera pas. Je pense que Sheldon Keefe, surtout, lui, ne va pas rester. Ça, je suis persuadé.
T'as-tu vu son entrevue après le match
Ouais.
numéro 5, après
Ouais,
l'élimination?
il a dit qu'il y avait une équipe pour remporter la Coupe Stanley. Mais ouais, mais. C'est une équipe pour remporter la Coupe Stanley. Comment c'est sûr que tu pars en deuxième ronde, t'sais? C'est assez logique, là. Pour moi, c'est quand même assez particulier qu'il dise ça. Puis moi, je pense que le duo Keefe-Dubas va pas rester, là. Il n'y a aucune chance. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont passer à autre chose avec ces deux-là. Puis encore une fois, je ne serais pas surpris que Brendan Shanahan, qui est président des Maple Leafs, lui aussi soit congédié. Donc, il va y avoir beaucoup de questions à se poser du côté des Maple Leafs, et des sérieuses remises en question surtout, parce que, écoute, Karl Dubas, pour vrai, moi je trouve pas qu'il a fait vraiment un mauvais travail, surtout cette année. J'ai vraiment l'impression qu'il a amené des bons morceaux qui pouvaient aider les Maple Leafs. On peut penser à l'échange de Ryan O'Reilly, Noah Lachary, qui était sur une quatrième ligne avec Lafferty, qui ont été excellents dans la série contre les Panthers. T'as amené Jack McCabe en défense, Luke Shen, qui ont été quand même pas si pire pour les Maple Leafs de Toronto. Mais vraiment, le problème, j'ai plus l'impression, c'est ça a été soit Sheldon Keefe qui n'a pas été capable d'apporter les ajustements nécessaires pour permettre aux Maple Leafs de rester dans la série, puis qui s'est tout simplement fait out-coach par l'entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice, et ou c'est tout simplement ton noyau de joueurs qui n'est pas à la hauteur. Malheureusement, dans le cas des Maple Leafs, ça fait quand même 6 ans. Ben, faites pas 6 ans, je dirais plus surtout les 5 dernières années que ça va très mal du côté de Maple Leafs Toronto, parce que quand même, il y a beaucoup qui disent depuis 2017, mais tu sais, 2017, c'est la saison recrue du trio Matthews, Marner, Nemtsov, puis ils étaient pas supposés gagner la série contre Washington, qui était premier dans la ligue cette année-là. Ça, je peux pas les excuser. L'année suivante, en 2018, affronter les Bruins, qui était clairement une meilleure équipe, les amener en 7 matchs, ils ont perdu le match numéro 7 à l'extérieur. Je peux plus les excuser, mais depuis. je dirais surtout depuis 2018-2019, l'année où John Tavares est arrivé à Toronto, ils n'ont plus d'excuses pour dire que comme ils sont pas capables de gagner. Là, fait que honnêtement, ils vont avoir des sérieuses remises à question du côté Maple Leafs de Toronto. Je m'attends à un gros ménage, surtout au niveau de l'état-major. Mais aussi, également, je m'attends à voir un joueur du top 4 partir chez les Maple Leafs.
Mais en même temps, tu sais, on se dit qu'il faut changer d'état-major, etc. Puis je comprends ça, mais ça fait comme tellement d'années qu'on n'arrête pas de changer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. On change à chaque fois. On dirait à chaque fois que ça ne marche pas, oh, on va rechanger. Oh, OK, on va rechanger. Oh, OK, on va rechanger. À un moment donné, c'est peut-être pas l'état-major le problème, c'est peut-être les joueurs sur la glace.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, je dis pas que c'est ça. Je dis exactement. Peut-être que c'est ça.
Ben moi, je pense que c'est. En tout cas, moi, je pense de plus en plus que ça commence à être ça. Là. Fait que, en tout cas, c'est triste, honnêtement. Là. Comme, écoute, on sait bien, tout le monde, là, on n'est pas des personnes à Maple Leafs. Puis beaucoup de gens à Montréal ne sont pas des personnes à Maple Leafs, et avec raison. Mais, tu sais, de voir une équipe avec autant de talent être peu performant lorsque ça compte, c'est assez difficile et triste à voir parce que tu te dis, comment ça se fait que les Maple Leafs ont autant de talent, puis ne réussit pas à faire grand-chose. Alors que cette année, ils ont réussi à battre l'équipe qui était double championne de la Coupe cette année et finaliste l'an dernier en la Lightning de Tampa Bay. Et même là, ils perdent en 5 matchs au tour suivant contre les Panthers de la Floride qui étaient 8e.
J'ai senti un relâchement. T'sais, on dirait que, comme je t'ai dit au début, les Maple Leafs de Toronto qui ont joué contre Tampa Bay puis contre Panthers à Floride, c'est pas du tout la même chose.
Mm-hmm.
Parce que contre le Tampa Bay, si on dit « OK, c'est le moment où est-ce qu'on peut sortir Tampa Bay puis que nous autres, on peut enfin enlever cette malédiction-là. » Fait que les guys, let's go, on y va. Là, une fois que ça a été fait, « Ah, OK, c'est bon, on va s'asseoir sur nos lauriers, on va rien faire, puis c'est juste Floride. We want Florida, comme diraient les partisans. » Non, c'est des séries éliminatoires. On va en reparler peut-être un peu plus tard, mais regarde où est-ce qu'en ce moment est le Kraken de Seattle. Faut ne jamais négliger aucun adversaire, puis on dirait que c'est ça qu'ils ont fait. Est-ce que c'est ça sur la glace? Est-ce que c'est ça dans le vestiaire? On ne le saura jamais, mais sur la glace, c'est ça qu'ils ont donné comme impression.
Ouais, c'est vrai. Puis écoute, c'est bizarre, man. C'est juste vraiment bizarre.
Donc, malheureusement, pour les Maple Leafs, ils devront repartir jouer au golf. C'est quand même 5 matchs de plus que les dernières années.
Ouais.
En 5 de temps. Ce n'est pas rien. On va parler d'autres équipes canadiennes qui ont été éliminées, malheureusement. C'est les Oilers d'Edmonton qui ont perdu en 6 matchs face aux Golden Knights de Vegas. Donc, un tour en moins pour eux comparé à l'année passée qui avait réussi à faire le carré d'os.
Yes.
Les Oilers. Comment le dire, encore une fois, je pense qu'on peut se l'avouer, encore une fois, c'est le problème des gardiens.
Ouais, ben c'est tout. Skinner n'avait pas très bien paru lors des deux dernières rencontres. Skinner est une des raisons pourquoi les Oilers ont coulé. Mais l'autre raison aussi, c'est que défensivement, c'était très difficile du côté des Oilers d'Edmonton. Et à 5 contre 5, surtout lors du match numéro 6, les Golden Knights étaient tout simplement meilleurs à 5 contre 5 contre les Oilers d'Edmonton. Malheureusement, encore une fois, du côté des Oilers, oui, tu as probablement les deux meilleurs joueurs d'un de hockey. En tout cas, tu as le meilleur sûr en Connor McDavid. Tu as pour moi le deuxième meilleur joueur d'un de hockey en Leon Draisaitl, qui a été excellent depuis le début des séries. Mais si les restes ne fonctionnent pas autour, tu ne peux pas te rendre jusqu'au bout. Puis malheureusement, du côté des Oilers de Matos, surtout lors des dernières rencontres, à 5 contre 5, puis avec les performances assez difficiles de Stuart Skinner, ben. Ça a été très difficile pour eux de réussir à battre les Golden Knights. Puis écoute, les Golden Knights étaient tout simplement la meilleure équipe, là. Malheureusement pour Edmonton, qui pour moi, les Oilers, après la fin de saison qu'ils ont eu avec l'acquisition de Mathias Secombe en défense, avec Stuart Skinner qui se débrouillait quand même pas si peu, ou ça, en première ronde, c'était quand même bien par moment pour Stuart Skinner. J'étais persuadé que les Oilers d'Edmonton avaient tous les ingrédients nécessaires pour se rendre jusqu'au bout. Puis malheureusement, ce n'est pas arrivé pour les Oilers d'Edmonton. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus encourageant du côté des Oilers que des Maple Leafs, ou que je trouve qu'il y a un petit peu moins de remise de questions à se faire du côté des Oilers de Matin. Peut-être un gardien de but, mais
écoute, ça chaque année.
À part de ça, je pense que. Ouais, puis peut-être un défenseur top 4, peut-être un bon top
6. On dit ça à chaque année.
Même là,
chaque année, on dit la même affaire pour les Oilers.
Ça, je trouve qu'il y a de l'amélioration
pour l'an passé. Puis leur
manque
un bon
gardien. Mais tu sais, Oli, il ne faut pas oublier ça. Du côté des les Golden Knights, c'était la meilleure équipe. C'était la deuxième meilleure équipe dans l'Ouest cette saison. Il y a juste Avalanche qui a été meilleure qu'eux dans l'Est. Puis c'est une équipe qui a quand même des morceaux très intéressants. Si c'est pas de Ademil qui est rendu gardien numéro 1 du côté des Knights parce que Laura Brosson est blessé, parce que Logan Thompson est blessé, parce que Robin Lehner aussi est blessé depuis pour toute la saison. C'est pas juste le gardien de but, ils ont quand même peut-être la meilleure équipe sur papier dans l'Ouest. Là. Donc, les Oilers n'ont pas perdu contre une équipe qui était nettement inférieure à eux. Je pense que les Golden Knights méritaient cette série-là. Puis, malheureusement, on verra pas encore une fois cette année, on ne verra pas une équipe canadienne remporter la Coupe cette année. Écoute, la dernière fois, c'était les Canadiens il y a 30 ans. Donc,
Ça reste que les Golden Knights ont montré une très bonne juste les deux équipes ont montré une très belle série, on doit se l'avouer. Ça a été quand même. Même si ça s'est fini en 6, on aurait bien évidemment ça que ça se finisse en 7. Mais ça reste que ça a été très, très serré comme série. C'est sûr que on dirait que mon point que je fais juste apporter, c'est que les Oilers, on dirait que c'est tout le temps les mêmes problèmes qu'on soulève à chaque année. L'année passée. Puis c'est la raison principale pourquoi ils sont allés chercher Jack Campbell, des Maple Leafs de Toronto, qui était rendu agent libre. Ils se sont dit, let's go, on y va. Puis finalement, ils se rendent compte que le 5 millions, 5 ans, va être difficile quand tu fais un gardien aussi performant que ce qu'ils croyaient. C'est sûr que là, c'est redevenu le problème, encore une fois, d'un gardien. T'sais, Stuart Skinner, excusez-moi, mais n'est pas un gardien de séries éliminatoires. Ça peut être un bon gardien pour une équipe plus jeune qui veut commencer à. Qui est plus de bas de classement, qui veut commencer à remonter. Mais lorsque tu arrives en séries éliminatoires, bien évidemment, montrer quand même de belles choses en première ronde. Mais après, quand tu vas t'arriver contre une équipe aussi offensive que les Golden Knights, ça commence à être difficile pour lui. Puis ça a paru.
C'est triste, mais écoute. Je trouve quand même que c'est un peu plus rassurant ce côté des Oilers que du côté des Maple Leafs. Puis, mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que je trouve que Connor McDavid a une saison absolument incroyable, a eu une saison de plus de 150 points, a eu des bonnes séries éliminatoires au niveau de ses statistiques. Puis c'est dommage qu'avec une saison de la sorte, il ne sera pas jusqu'au bout. Je trouve ça triste quand même.
Ouais, ça, je te comprends là-dessus. Sinon, très rapidement, là, on peut le dire, le match 4, match numéro 7 entre le Kraken de Seattle et les Stars de Dallas. C'est lundi à 8h le soir. Ça va être très chaud déjà de base. S'attendait. Je pense que les deux, on s'attendait à ce que c'était en 7 ou ça va être assez beau à voir de ce côté-là, voir quelle des deux jeunes équipes. On peut s'avouer, les deux sont quand même jeunes équipes à avoir.
Surtout le Kraken. Surtout le Kraken, les Stars, ils ont quand même des vétérans. Tu as Pavelski, tu as Ryan Suter,
quand même,
Jimmy Benn, tu as Tyler Seguin, ce pas des jeunes joueurs.
Je veux dire, comme les Stars ont quand même beaucoup de jeunes joueurs qui commencent à bien aspirer. Pas comme Pavelski, ça, je suis d'accord là-dessus. Là. Mais ça va être donc intéressant à voir de ce côté-là, lequel l'emportera et affrontera les Golden Knights en Vegas en finale de l'association de l'Ouest. Sinon, rapidement, les Devils du New Jersey ont été éliminés par les Hurricanes de Caroline en 5 matchs. Peut-être tu peux dire un bout rapidement d'où aller, le Devils en même temps. Oui, c'est décevant de faire sortir en deuxième ronde, mais ils sont jeunes, c'est un apprentissage. Tranquillement, pas vite, ça va se faire. Là.
Ouais, ben écoute, du côté des Devils de New Jersey, ils peuvent quand même dire mission accomplie. Ils ont battu les Rangers de New York qui étaient considérés peut-être comme autres que les Bruins de Boston. Avec les Bruins de Boston, ils considéraient comme l'une des équipes favorites pour sortir dans l'association de l'Est. Perdre 2-0 dans la série contre les Rangers de New York, tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Ils sont revenus dans la série, ils ont gagné la série en 7 matchs de façon convaincante. C'est une équipe qui est jeune, une équipe qui est à sa première expérience pour la majorité en séries éliminatoires. C'est la première fois qu'ils faisaient les séries éliminatoires du côté de New Jersey depuis 2018. Et qu'est-ce qui est dommage, par contre, c'est qu'ils n'ont pas été capables de continuer cette séquence-là. À part du match numéro 5, puis je crois du match numéro 3, puis du match numéro 3 où ils ont gagné de façon convaincante, le reste, les Hurricanes ont facilement battu les Devils New Jersey, puis par des hauts pointages, des 7-2, des 6-2, 5-1. C'était vraiment des matchs à sens unique pour les Hurricanes de Caroline. Puis, malheureusement, du côté des Devils New Jersey, Akira Schmid, qui avait été excellent devant les filets, à part du match numéro 5, a vraiment mal paru dans cette série-là. Puis, Vitek Vanecek n'était pas très bon non plus. Donc, ça a été dommage pour les Devils de Jersey. Mais écoute, c'est une équipe qui est excitante d'avoir joué. Puis, c'est une équipe qui peut aspirer à de grandes choses, clairement, au cours des prochaines années. Notamment, on a vu le dernier des Frères Hughes, Luke Hughes, qui a fait ses débuts dans cette série-là. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Lui, il va être un des défenseurs d'avenir du côté des Devils de New Jersey. Puis, c'est une équipe qui est très jeune. Donc, c'est une équipe clairement qu'on va revoir dans les prochaines années, surtout dans l'Est. Puis, écoute, les Hurricanes de Caroline, une équipe avec un système de jeu absolument incroyable, avec un Rob Brind'Amour qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs-chefs dans l'histoire de hockey. Vraiment prend des excellentes décisions. On voit que c'est une équipe qui a une cohésion absolument incroyable, une équipe qui aime jouer ensemble. Puis, il y a quand même eu des choses assez particulières du côté des Hurricanes à Caroline. On peut penser à Jordan Martineau qui a été absolument incroyable dans cette série-là. Je crois que c'est pour lui, c'est 10 points en 5 games dans cette série-là, alors qu'il avait marqué 0 dans la série qu'on est à Islanders de New York en 6 matchs. Donc, écoute, la production incroyable du côté des Hurricanes de Caroline. Même Jesperi Kotkaniemi aussi a eu une bonne série en général, a marqué des buts importants, a été à l'origine du but gagnant de Jasper Fast, où c'est lui qui a tiré en avantage numérique, puis Jasper Fast a dévié son tir. Tu as eu plusieurs joueurs de soutien des Hurricanes de Caroline qui ont été vraiment bons dans cette série-là contre les Devils du Jersey. Puis, en plus, faut pas oublier du côté des Hurricanes de Caroline, il y a beaucoup de gros morceaux à l'attaque qui sont absents. On peut penser à Andrei Svechnikov, qui est leur meilleur buteur, qui est absent. Teuvo Teravainen, c'est un excellent joueur de top 6 qui peut jouer en désavantage numérique, qui est un excellent passeur, qui est absent pour les Hurricanes de Caroline. Puis également aussi, un joueur qui aurait pu aider, mais qui malheureusement a joué pas beaucoup de matchs cette saison, c'est Max Pacioretty. Du côté des Hurricanes de Caroline, écoute, c'est une belle équipe. Puis moi, de toute façon, j'avais pris les Hurricanes de Caroline pour se rendre en finale de la Coupe cette année. Donc, à date, ça va bien de mon côté pour ça.
Donc, les séries éliminatoires qui continuent de ce côté-là, on va avoir commencé le troisième round, probablement mercredi
Ouais.
ou mardi, mais je pense plus mercredi de ce côté-là. Je pense qu'ils vont donner une petite journée de repos à tout le monde en même temps.
Yes.
Donc, les séries éliminatoires vont continuer pour les Ligues nationales de hockey. Doit aller, tu l'as parlé du CF Montréal parce que le CF Montréal a affronté deux fois ses rivaux de toujours, le Toronto FC. Ça a beaucoup brassé. Ça, je pense que tu vas nous en parler dans les deux matchs. Et le CF Montréal a réussi à l'emporter dans ces deux rencontres.
Yes! Écoute, ça en est passé de l'action cette semaine à Montréal, ben, pour l'équipe du CF Montréal. Et comme tu l'as dit, affrontait le Toronto FC à deux reprises, une fois championnat canadien et également une fois du côté du Stade Saputo à MLS. Puis, écoute, dans ce match de quart de finale-là, que le CF a réussi à gagner 2 à 1 du côté de Toronto, quand même, t'as eu quand même des bonnes choses qui sont arrivées. T'as Zachary Broguiart qui a marqué dans ce match-là. Chinozo Offer qui a marqué dans les deux rencontres aussi, le nouvel attaquant du CF Montréal qui a marqué dans le match du championnat canadien mardi passé et également dans le dernier match, celui de samedi dernier. Mais qu'est-ce qui a clairement retenu l'attention du côté du CF Montréal, c'est ça a été cette violente bagarre dans les estrades du BMO Field. Écoute, des joueurs, on peut voir sur la séquence des partisans du Toronto FC qui tabassaient des partisans du CF Montréal. Et évidemment, avec raison, ça n'a pas passé au conseil. Puis le CF Montréal a décidé de tout simplement bannir les partisans du Toronto FC pour la rencontre qui avait eu lieu samedi dernier. Puis, écoute, c'était déplorable à voir. Puis, moi, je trouve ça bizarre que des partisans décident de tabasser des partisans d'équipe adverse chez eux. Écoute, oui, je peux comprendre que vous ne votez pas pour la même équipe, mais ce n'est pas une raison pour donner des. Pour être violent. Donc, SF a vraiment pris une bonne décision en barrant la porte dans leur stade au Toronto, aux partisans du Toronto FC. Donc, c'est ça pour cet incident-là. Puis, évidemment, samedi passé, c'était journée, en fait, c'était une soirée de célébration du côté de Montréal parce que le SF célébrait au Stade Saputo son 30e anniversaire, le 30e anniversaire de l'Impact de Montréal. Et pour l'occasion, encore une fois, il recevait cette fois-ci le Toronto FC. Puis, écoute, c'est une belle victoire du CF Montréal pour célébrer son 30e anniversaire par la marque de 2 à 0. Un but quand même surprenant, signé Lasse Lapalainen qui a marqué. Bon, sur la séquence, on peut voir qu'il a essayé de centrer au lieu de tirer au but, mais quand même, c'est une bonne chose pour Lasse Lapalainen qui marque son premier but de la saison avec le CF Montréal. Puis, par la suite, 3 minutes seulement après le but de Lasse Lapalainen à la 53e minute, il y a un joueur du Toronto FC, Jacquelyn Marshall-Routy, qui a eu un carton rouge. En raison de ce carton rouge-là, Toronto FC s'est retrouvé à 10 contre 11 pour le restant de la partie. Et à la 68e minute, Chinozo Offer a marqué le but d'assurance pour le CF Montréal et a permis en fait au CF de Montréal de remporter cette rencontre-là par la marque de 2 à 0. Je crois que c'est la 6e victoire de suite, toute compétition confondue pour le CF Montréal, du côté du CF Montréal aussi. C'est la 4e rencontre de suite que le CF Montréal gagne par jeu blanc. C'est un record de l'équipe pour le plus grand nombre de matchs consécutifs remportés par jeu blanc. Donc, c'est une bonne chose pour le CF Montréal. Puis, écoute, Eli, on a parlé il y a quelques semaines des grandes difficultés du CF Montréal cette saison. Écoute, c'est chose du passé, mais pour l'instant, à 11 matchs, c'est 5 victoires, 6 défaites, puis ils se retrouvent maintenant à la 16e position dans l'Association de l'Est. Donc, les CF de Montréal, est-ce qu'ils sont de retour? Bon, on peut dire que oui pour l'instant, mais ça ne change pas que ça va de mieux en mieux pour le CF de Montréal. Puis, le CF de Montréal, maintenant, commence de mieux en mieux et tranquillement, on voit que Hernan Osada commence à avoir un impact sur la formation montréalaise et aussi. Tu commences à avoir tranquillement le retour de plusieurs joueurs. On peut penser à Romel Kyoto qui est de retour. On peut penser aussi à comment il s'appelle le joueur à Mako Mihailovic qui revient très bientôt aussi. Il va avoir le retour de Samuel Piette. Les blessés reviennent tranquillement du côté de CF Montréal. Puis, écoute, la CF Montréal vont. Est-ce que la CF Montréal va vers la bonne direction pour la suite des choses cette saison?
Donc, en même temps, le CF Montréal est rendu à la 7e position dans l'Association de l'Est et avec cette victoire face à Toronto, qui est maintenant dernier, eux, dans l'Association de l'Est. On voit le pouce. L'équipe qui monte le pouce en l'air. Et même
Yes.
là, en plus, t'as oublié de préciser, mais après le match Toronto FC, le jeu samedi, là, plutôt, là, au Stade Saputo, il y a eu comme, pas une bagarre, mais certaines poussettes où est-ce que certains joueurs, lorsqu'un joueur s'est fait qu'un joueur qui a été expulsé par le Toronto FC, un joueur du Toronto FC qui a été expulsé, qui est remonté sur le terrain. Ça, techniquement, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais illégal. Dans les termes de jeu du soccer de la FIFA, tu n'as pas le droit de faire ça. En règle, techniquement, c'est lorsque tu sors du terrain, lorsque tu as un carton rouge, il faut que tu sors du terrain et tu n'as plus jamais le droit de revenir du reste de la rencontre. C'est pour ces raisons pourquoi est-ce que les joueurs vont dans le vestiaire. Fait que, techniquement, c'est ça la règle. Puis même là, les personnes qui jouent au soccer vont vous dire toute la même chose. Lorsque le joueur prend un carton rouge, il ne peut même pas rester sur le banc. Faut qu'il y ait une bande des spectateurs. Peut
C'est
même pas
quand
rester
même.
sur le banc. C'est des règles qui sont très précises. Fait que ça, est-ce que le Toronto FC peut être plus puni pour être ça? Ou ils vont simplement faire un petit tape ses doigts? On sait pas. On verra.
Écoute, c'est quand même parce qu'il y a tout ça. Puis malheureusement pour le Toronto FC, Ils ont mal paru cette semaine, autant pour les partisans que pour les joueurs. Donc, ça va mal à Toronto quand même. Ça n'a pas été une belle semaine pour les partisans du sport à Toronto. Donc, écoute, mais pour nous, à Montréal, ça va bien. Puis, écoute, CF, tranquillement, va vers la bonne direction. Donc, il y a plein de choses à rajouter. Maintenant, si tu me permets
Ça, d'aller. Tu veux nous parler du soccer en anglais parce que.
Ben, européen, il y a eu beaucoup de choses du côté de l'Europe. Malheureusement, notre bon ami Thomas Lafond est malheureusement absent. Mais écoute, je pense que je vais commencer par le plus gros du côté de l'Europe. Évidemment, c'est la Ligue des Champions. C'était le début des demi-finales, match aller de Ligue des Champions. Premièrement, ben, il y avait le premier match qui avait lieu mardi, celui que tout le monde attendait. Le match aller, la revanche de la demi-finale de l'an dernier entre Manchester City et le Real Madrid qui avait eu lieu du côté du Santiago Bernabéu à Madrid. Rencontre qui s'est terminée par la marque de 1-1 du côté de Madrid. Les buteurs, évidemment, surprend personne. Du côté du Real Madrid, c'est Vinicius Junior qui a marqué avec une frappe absolument incroyable de l'extérieur de la surface. Et évidemment, celui qui a créé l'égalité du côté de Manchester City. Mais non, ce n'est pas Erling Haaland, c'est Kevin De Bruyne avec une frappe absolument incroyable qui a réussi, lui aussi de l'extérieur de la surface, qui a battu Thibaut Courtois. Et en raison de ça, ben, la rencontre s'est terminée par la marque de 1-1. Le match retour va avoir lieu mercredi qui s'en vient du côté de l'Etihad Stadium à Manchester. Ça va être absolument un match retour extraordinaire. Tout est encore à jouer. Puis en plus, avec le fait que maintenant, il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte, ben, on va avoir le droit à un match absolument extraordinaire, j'ai l'impression, du côté de Manchester. Écoute, je voulais mentionner deux joueurs, deux défenseurs des deux équipes. Premièrement, Antonio Rudiger, défenseur allemand du Real Madrid, qui a fait un travail absolument extraordinaire sur Erling Haaland. Erling Haaland n'a rien fait dans cette rencontre-là, dans le match aller. Donc, ça a été absolument incroyable du côté du Real Madrid, comment ils ont bien géré Erling Haaland, qui probablement ben, il est le meilleur buteur en Europe, mais probablement aussi l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur joueur cette saison dans le monde. Donc, c'est absolument incroyable de voir la belle performance d'Antonio Rudiger qui a eu un jeu absolument incroyable, notamment en jouant de façon très physique contre Haaland. Donc, ça c'était la première mention que je voulais faire. La deuxième, évidemment, c'est Ruben Diaz, défenseur numéro 1 de Manchester City, qui a fait un travail absolument remarquable sur Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022. Benzema qui a pas, lui aussi, a été très tranquille dans cette rencontre-là. Donc, c'est ça. Je voulais faire une mention aux deux défenseurs centraux qui ont été absolument incroyables et qui ont réussi à vraiment limiter les dégâts pour leurs équipes. Donc, c'est cette petite dédicace-là que je voulais amener à ces deux joueurs-là. Maintenant, parlons rapidement du match, ben, du deuxième match qui avait eu lieu du côté de Milan. C'était l'affrontement entre les deux équipes de Milan, l'AC Milan et l'Inter Milan, qui s'affrontaient du côté de San Siro. Puis, fait intéressant, Ali, je ne sais pas si tu savais, l'AC Milan et l'Inter Milan jouent dans le même stade au San Siro. Donc, c'est quand même assez spectaculaire de voir les parties des deux équipes dans le même stade. Puis, je sais pas si tu as vu les vidéos, mais en tout cas, il y avait des vidéos qui montraient l'avant-match au moment de la cérémonie avec la chanson de Ligue des Champions qui arrivait et tout. C'était absolument incroyable à voir. C'était tellement beau à voir le San Siro qui accueillait, ben, en fait, accueillait un match entre l'Inter Milan et l'AC Milan en Ligue des Champions, à phase éliminatoire pour la première fois depuis 2005. Donc, c'était assez spectaculaire de voir ça. Puis, l'Inter Milan, qui était techniquement l'équipe visiteuse dans leur propre stade, qu'est-ce qui est assez particulier, a réussi à gagner par la marque de 2-0 au match aller grâce au début d'Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan, deux vétérans qui ont réussi à marquer dans un match où que l'Inter Milan était clairement la meilleure équipe des deux Milan. Donc, ils se retrouvent avec un avantage de 2-0 pour le match retour qui va avoir lieu demain du côté, encore une fois, de Milan, vu que les deux équipes jouent dans le même stade. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en Ligue des Champions. Alors, on va
Mais
avoir
Doiré,
deux matchs
juste.
contre absolument extraordinaire, oui.
Mais Doiré, est-ce que, genre, lorsque. Est-ce que pour la séparation des équipes, les équipes, mais plutôt les spectateurs, est-ce qu'ils faisaient vraiment de moitié de stade chacun? Ou c'était vraiment tout le monde dans comme. Tous les partisans étaient mélangés dans. C'est ça.
Je pense que d'après la vidéo que je vous montrais, c'était vraiment. Ils ont limité ça en 2-2, genre. Fait que t'avais les côtés,
Ils
t'avais
ont
les
vraiment
côtés.
séparé ça dans deux, là.
Ils ont vraiment
OK.
séparé le stade en deux. Donc, c'était vraiment assez extraordinaire de voir ça. Puis, c'est très rare que tu vois deux équipes du même stade qui s'affrontent aussi loin en Ligue des Champions. Donc, c'est absolument extraordinaire de voir ça. Mais écoute, on a eu le droit du beau soccer pour l'instant du côté de la Ligue des Champions. Puis, les matchs retour vont avoir lieu cette semaine. Donc, hâte de voir qui vont être les deux finalistes de la Ligue des Champions cette année qui vont avoir lieu du côté de Istanbul en Turquie. Maintenant, Tom, pas Tom, Oli.
Merci.
Maintenant, on va parler de l'équipe de Tom du côté de la
Moi, je
Première
parle pas
Ligue.
de baseball, malheureusement.
Non, mais là, on n'a pas le choix parce que ça c'est quand même assez spectaculaire. Bon, c'était la course. Il y avait une course qui va bientôt être terminée pour le titre en Première Ligue entre Manchester City et Arsenal. Il faut se rappeler, Manchester City avait un point d'avance sur Arsenal avec un match en main, évidemment, mais quand même se retrouvait avec une avance très minime contre les Gunners. Puis, malheureusement, pour les partisans d'Arsenal, et c'est notamment le cas de Thomas, Arsenal n'avait tout simplement pas plus le droit à l'erreur malheureusement, ils ont perdu 3-0 à domicile contre Brighton. De façon assez spectaculaire. C'était 0-0 jusqu'à la 51e minute et par la suite, ils ont marqué Brighton, qui était l'équipe visiteuse du côté de l'Emirates Stadium, a marqué 3 buts et vient littéralement de briser le rêve des partisans des Gunners qui rêvaient d'un premier titre en Ligue des Champions, ben, pas en Ligue des Champions, mais en Première Ligue depuis 2004. Et écoute, c'est pas compliqué. Si Manchester City remporte leur prochain match le week-end prochain,
Contre Chelsea.
ils sont contre Chelsea, qui va très mal, vont être sacrés champions pour la troisième année consécutive. Donc, malheureusement, malgré la belle saison qu'Arsenal a eue, alors qu'ils ont été en avance pendant, je pense, presque 90% de la saison,
C'est
vont
pas
trouver le bon.
90, mais 80, ouais.
Ouais, mais pas loin, là. Il me semble, je vais rechecker, là, mais Arsenal avait vraiment une avance, il y avait vraiment un gros pourcentage de semaines où qu'ils étaient en avance en Première Ligue, puis malheureusement, ils ont échappé lors du dernier mois le titre, puis là, pour l'instant, à moins d'une catastrophe de la part des Citizens, je pense pas qu'on va avoir le droit à un miracle, puis Manchester City risque d'être encore une fois champion, donc malheureusement, Arsenal va clairement terminer deuxième de Première Ligue. Va retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2017. Mais ce ne sera pas pour cette année le titre pour eux. C'est quand même assez particulier. Tu perds le titre. Ben, ils allaient perdre le titre de toute façon, Arsenal, vu que Manchester City avait quand même un match en main. Mais tu perds un match qui était quand même prenable à domicile contre Brighton 3-0. C'est quand même assez triste à voir ce côté d'Arsenal qui cette année avait montré du bon soccer. Mikel Arteta risque d'être nommé probablement entraîneur de l'année du côté de la première ligue. Donc malheureusement pour Arsenal, ben, peut-être que l'an prochain ils vont être encore meilleurs en première ligue. Ils vont peut-être enfin réussir à remporter un titre de première ligue, mais cette année, on passait tout près de remporter la première ligue, mais ça s'est fait dépasser dans le sprint final par Manchester City, qui est quand même une des meilleures équipes en Europe.
Donc, et aussi rapidement, en Espagne, le FC Barcelone était couronné champion. Techniquement, la saison n'est pas encore finie, mais c'est mathématiquement impossible de rattraper le FC Barcelone, donc, qui sont champions d'Espagne. Bon, retrouver quand même le chapeau 1 en Ligue des Champions. Ça, c'est la qualité que tu as quand tu remportes la Ligue de ton pays. Surtout, tu retrouves le chapeau 1, fait que tu réussis à avoir des équipes un peu plus faibles potentiellement. Non? Tu ne peux pas échapper au groupe de la mort de ce côté-là. Donc, ça va
Ouais.
être assez intéressant de voir que ça va donner parce que Real Madrid, s'ils ne sont pas champions, s'ils ne gagnent pas la Champions League, ils vont être dans le chapeau 2. Ce qui
Ouais.
va être très bizarre.
Ouais, ça va être très bizarre.
Très bizarre et ça va être surtout très dangereux de ne pas prendre le Real Madrid dans les prochains tirages au sort de la Champions League en 2023, 2024. Et le format va changer en 2024, 2025, si je ne m'abuse.
Ouais, exactement. Il va,
Fait que ce soit la dernière année avec ce format-là, fait que
ouais.
c'est bien qu'est-ce que je disais. Donc, techniquement, c'est ça. Barcelone va retrouver le chapeau 1, fait que ça va être bien pour eux. Puis en plus, ça, t'évites Real Madrid parce que le Real Madrid, tu peux pas piger deux fois ton. Tu peux pas avoir dans une phase de groupe, tu peux pas avoir deux fois deux pays de deux équipes dans le même pays.
Ouais,
Fait que
exactement.
t'évites en plus ça, le Real Madrid. Je veux dire qu'ils sont quand même, ont quand même un bon avantage pour le futur tirage au sort. Ben là, minimum, ça va être en août-septembre.
Ouais.
Il y a bien des choses qui peuvent se passer entre-temps.
Yes.
Parlons rapidement du tournoi de Rome, parce qu'on a le dernier Masters 1000 qui, donc, en terre battue de la saison, qui va nous préparer pour le tournoi de Roland-Garros. C'est le tournoi international de Rome. Donc, bien évidemment, vous devez deviner où est-ce que c'est. Je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est où? C'est en Italie. Donc, Masters 1000 t'as battu. Donc, un joueur à surveiller, ça va être un certain Carlos Alcaraz. Bien
Yes.
évidemment. Novak Djokovic est également présent à ce tournoi-là, qu'il avait lui-même remporté l'année passée. Donc, remet ses points en jeu de ce côté-là. Donc, bien évidemment, il veut l'emporter pour garder ces points-là, parce que sinon, ça va être une perte de points et ça peut être potentiellement une perte de place, etc. Donc, parce que c'est ces points-là qui sont mis en jeu pour faire le classement, l'ATP, le classement mondial. Fait que c'est quand même assez important de concrétiser tes victoires
Yes.
et conserver les titres que tu as en ce moment. Donc, en ce moment, Novak Djokovic est toujours en liste. On est rendu au quatrième tour. Il faut savoir que là, maintenant, cette semaine, on va peut-être un peu moins jouer parce que, tranquillement, pas vite, Roland-Garros, les qualifications commencent lundi et le tournoi commence, ben, lundi de la semaine prochaine, fait que le 23. Et le tournoi commence le samedi ou le dimanche après faire le tournoi du Grand Chelem. Fait que très souvent, c'est ça qu'ils font, là, très souvent, la dernière semaine avant Roland-Garros. On va leur donner un petit peu de repos, puis ensuite, pour un, pour les joueurs qualifiés, puis deux, après la semaine où est-ce que les joueurs qualifiés commencent à se tailler une place dans le tableau principal, mais ça va être le repos des grands joueurs comme Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, parce que bien évidemment, après, c'est sept tours, fait que faut que tu te reposes, puis il faut que tu sois prête, parce que souvent, tu peux jouer des matchs de 5 heures sur le terrain parce que c'est trois manches. Faut que tu te prépares mentalement à ça, parce que ça peut être long, tes matchs. En grand chelem. Donc, on a Novak Djokovic à Rome qui est présent à la première tête de série. Très bien, très bon pour lui avec un laissez-passer au premier tour, réussi à l'emporter au deuxième tour en deux manches et bas de Grigor Dimitrov en trois manches. Affrontera donc Cameron Norrie, le 13e tête de série. Le Québécois Félix Auger-Aliassime, malheureusement, a été éliminé dès son premier match, donc il est au deuxième tour parce qu'il a obtenu un laissez-passer pour le premier tour dû à sa bonne position, étant 10e tête de série. Malheureusement, a perdu contre le qualifié Pomperin. Qualifié Pomperin, un joueur australien qui s'illustre quand même bien à Rome, honnêtement, on doit se l'avouer. Il est déjà rendu au quatrième tour en étant qualifié. Ce qui est, honnêtement, normalement, quand tu es qualifié, tu t'attends à jouer deux tours, voire max trois. Lui, il est rendu au quatrième tour, on doit se l'avouer quand même. C'est un très beau parcours de ce côté-là. Va affronter Holger Rune, le Danois. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais tu sais jamais. Un tournoi de Masters 1000, c'est deux manches gagnantes. Puis, un joueur qui n'est pas dans sa journée, ben, tu peux en profiter pour monter, puis etc. On a déjà eu beaucoup de surprises. La plus grande surprise que tout le monde va se souvenir, bien évidemment, c'est la victoire de Denis Shapovalov à Montréal lors du Masters 1000 de l'Omnium Banque Nationale, qui était anciennement la Coupe Rogers. Ça a été la cause de la surprise. Puis, c'est ce qui arrive. Personne ne s'attendait à ce que Denis Shapovalov réussisse à faire aussi loin. Ben, Nadal, ça n'a pas été sa journée, puis il l'a pris. Fait que, bien
Yes.
évidemment, intéressant de voir de ce côté-là. Sinon, on a un Tsitsipas qui est en lice, qui va. Ben, en ce moment, lui, il est en train de jouer son match de troisième tour. On a Carlos Alcaraz, bien évidemment, tout en bas du tableau. Qui est bien évidemment dangereux et celui qui est en lice. si on a des matchs de Medvedev, Zverev est présent également au tournoi. Juste pour vous dire, là, Alcaraz, on se souvient qu'il avait remporté le tournoi de Madrid. Et il a remporté également le tournoi de Barcelone, qui est un ATP 500. Donc ça, et le premier tournoi de Masters 1000 à Monte-Carlo, il était absent parce qu'il était blessé. Puisqu'il voulait se reposer, il n'était pas tout à fait à 100%. Donc, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Mais par contre, je viens de voir dans mon affiche que le tableau que j'ai présentement n'est pas tout à fait au point, qu'il a perdu son match de troisième tour. Carlos Alcaraz, donc malheureusement pour lui, ne pourra pas l'emporter.
Yes.
Donc, ça va continuer bien évidemment, puis ensuite, on va parler du tournoi de Roland-Garros. Douali, tu voulais nous parler des playoffs de la NBA, donc qui se déroulent et qu'on est rendu au troisième tour, si je ne m'abuse, parce que
on a le Carradas. C'est ça, on a le Carradas qui est... tu sais, qu'est-ce qui est quand même cool quand même avec les playoffs de la NBA, ben, les séries de tour de la NBA, ben... c'est quand même proche d'une salle d'hockey, fait que c'est quand même facile à savoir on est rendu où, ou presque dans la NBA.
C'est un petit peu plus d'avancé.
Ouais, c'est une semaine d'avancé, c'est pas si pire que ça. Mais tu vois, le troisième tour commence pas plus tard que mercredi dans une salle d'hockey, donc c'est presque la même chose. Maintenant, parlons des choses un peu plus sérieuses. Il y a eu de l'action au deuxième tour. Premièrement, du côté de l'Est, on va avoir droit au même carré d'as que lors de la bulle de 2020. Du côté de l'Association de l'Est, on va avoir le Heat de Miami qui vont affronter les Celtics de Boston. Et dans l'Association de l'Ouest, c'est les Nuggets de Denver qui vont affronter les Lakers de Los Angeles. Du côté du Heat de Miami, ils ont battu les Knicks de New York en 6 matchs. C'était quand même une belle série. Il y a eu des belles performances, évidemment. Ben, Jimmy Butler qui a raté quand même 2 matchs en série. C'est bien débrouillé quand même pour le Heat de Miami. Notamment marqué 24 points dans le match décisif. Même juste pour Bam Adebayo qui a marqué 23 points. Donc, le Heat de Miami qui continue sur sa belle séquence. Du côté de l'autre série, celle qui était pour moi était une série quand même très intéressante, c'était celle entre les Celtics de Boston et les 76ers de Philadelphie qui s'affrontaient dimanche dans un match, dans un septième match, un match décisif où que les Celtics de Boston, qui perdaient 3-2 dans la série, ont réussi à battre les 76ers à l'extérieur pour jouer le match numéro 7 à domicile. Puis, évidemment, les Celtics de Boston l'ont emporté par un manque de 112 à 88 lors du match décisif qui avait eu lieu du côté du TD Garden à Boston. Évidemment, ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est la performance extraordinaire de Jason Tatum, joueur vedette des Celtics de Boston, qui a marqué 51 points lors du match numéro 7. C'est un record. Et évidemment, du côté des 76ers, c'est une déception totale. James Harden et Joel Embiid ont accumulé les deux ensemble 24 points. Donc, c'est pour vous dire à quel point que les gros joueurs des 76ers ont tout simplement pas été à la hauteur pour le match numéro 7. Puis, il faut se rappeler quand même que Joel Embiid, pas plus tard que la semaine dernière, a été nommé joueur le plus utile de la NBA et malheureusement, n'a pas été capable d'amener son équipe jusqu'à au moins une finale de conférence. Puis, fait intéressant sur Joel Embiid. Joel Embiid est devenu le premier joueur à gagner le MVP. Le premier joueur gagnant du MVP à ne pas aller plus loin que le deuxième tour. Donc, c'est pour te dire que est-ce qu'au final, Joel Embiid était vraiment le joueur le plus utile? Moi, c'est la question que je me pose, puis c'est la question que de nombreuses personnes se posent, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que Nikola Jokic, puis je commence à être du même avis qu'eux, méritait le titre de joueur le plus utile. Une saison absolument incroyable. A eu un triple-double pour sa saison au complet. Puis, attention. Ouais, excuse-moi, j'avais accroché.
En même temps, si tu parles de Joel Embiid, mais genre, si je compare ça, mettons, au hockey, on s'entend pas mal, tout le monde, que le Hart, qui est qui est décerné au joueur le plus utile, ça va être probablement Connor McDavid qui va l'emporter, puis il a fait deux tours.
Mm-hmm. Ouais, c'est sûr, mais...
Techniquement, c'est pas en saison régulière qu'ils prennent juste en compte?
Ouais, c'est ça, saison régulière, évidemment.
Mais c'est ça.
Mais c'est parce que l'affaire, Ali, c'est que, comparé, mettons, si on compare l'histoire d'hockey et l'NBA, c'est que dans l'histoire d'hockey, il y a vraiment pas eu de débat, c'était McDavid qui était tout seul. Là, okay, cette saison, il y a vraiment un débat entre vraiment le top 3, là, Nikola Jokic, Joel Embiid qui a gagné le titre de joueur le plus utile, et également Giannis Antetokounmpo, joueur vedette des Bucks de Milwaukee. Ces trois-là, il y avait une course entre ces trois joueurs-là pour le titre de joueur le plus utile. Donc, c'est vraiment juste ça la petite différence, mais c'est vrai qu'il y a quand même, tu peux quand même dire que c'est vrai que dans l'histoire de hockey, c'est quand même très similaire à l'NBA, mais reste que c'est la première fois dans l'histoire de l'NBA que tu vois un gars qui a remporté le joueur le plus utile pour son équipe dans la NBA ne soit simplement pas capable de se rendre plus loin que le deuxième tour. Donc, c'est quand même assez particulier de voir ça. Puis écoute, pour Boston, qui était la deuxième meilleure équipe la deuxième meilleure équipe dans l'Est cette saison, se retrouve pour l'instant favori dans la série contre l'Heat de Miami, mais avec Jimmy Butler, qui est absolument extraordinaire depuis le début des séries éliminatoires. J'ai vraiment l'impression que ça peut être serré, puis que cette série peut se rendre jusqu'au bout, et que l'Heat de Miami pourrait peut-être revoir la finale de la NBA pour la première fois depuis 2020, en fait, depuis la bulle. Puis maintenant, du côté de l'association de l'Ouest, je vais commencer avec celle entre les Nuggets et les Nuggets de Denver et les Suns de Phoenix. Une série que les Nuggets ont quand même remporté ça en six matchs avec un match Moses à sens unique du côté de Phoenix. Les Nuggets de Denver l'ont emporté par 25 points. Puis il y a un moment où c'était plus de 30 points d'avance pour les Nuggets. Encore une fois, Nikola Jokic était excellent lors du match décisif avec un triple-double, 32 points, 10 rebonds et 12 passes décisives en 38 minutes. Puis du côté des Suns, avec Kevin Durant qui est arrivé à la date limite de transaction avec Devin Booker qui est très bon facilement. Bon, il y a eu Chris Paul malheureusement qui était absent pour eux. Puis DeAndre Ayton, le pivot aussi, qui était absent par les deux pour cause de blessure. C'est une déception totale pour eux qui avaient quand même une belle équipe sur les 5 partants, mais malheureusement, dû au manque de joueurs sur le banc pour venir aider ces joueurs vedettes, c'était mission quasi impossible de battre les Nuggets qui ont terminé premier dans l'association de l'Ouest. Donc, les Nuggets qui se qualifient évidemment pour la première fois dans le carré d'as depuis la bulle de 2020. Et pour l'occasion, ils vont affronter nul autre que l'équipe qui les avait battus en finale de l'association de l'Ouest en 2020. L'équipe championne également de la bulle en 2020, les Lakers de Los Angeles qui ont battu en six matchs l'équipe championne en titre, les Warriors de Golden State, notamment en les battant en match numéro 6 au Staples Center, au Crypto.com, c'est ce qui c'est le nouveau nom de l'aréna de Los Angeles, ont battu les Warriors par la marque de 122 à 101. Encore une fois, LeBron James, même à son âge, est absolument incroyable. Réussi à marquer 30 points lors du match décisif. Presque un triple-double. Était à un rebond et à une passe du triple-double. Donc, LeBron James a été excellent. Le joueur de soutien, Austin Reeves, aussi a été excellent dans cette rencontre-là, marquant 23 points. Puis, évidemment, Anthony Davis, qui pour moi est absolument incroyable depuis le début de série de tour, a été excellent lors du match numéro 6, le match décisif, avec 20 rebonds. Donc, a complètement dominé les Warriors à l'anneau. Donc, c'est une belle... C'est du côté des Lakers, c'est tout un retournement de situation pour eux, parce qu'à début de saison, ils étaient absolument horribles à voir jouer, puis tranquillement, ils ont remonté la pente, puis à la date limite des transactions, ont fait des transactions clés, en cherchant notamment D'Angelo Russell et Rui Hachimura. Donc, ça a été deux transactions qui ont fini par être payantes pour les Lakers de Los Angeles, et maintenant se retrouve en finale de conférence pour la première fois comme les autres depuis 2020. LeBron James qui a quand même une moins de 23 points par contre dans ces séries-là. Anthony Davis aussi, qui est absolument incroyable, surtout défensivement, il est probablement le meilleur joueur défensif en ce moment parmi parmi les joueurs qui ont joué cette saison en série éliminatoire 3. Donc, écoute, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans ce carré d'as. Pour moi, les quatre équipes peuvent aspirer à remporter le titre de la NBA. Donc, écoute, il y a de l'excellent basketball qui reste encore dans la NBA. Très, très hâte de voir la suite des choses.
Ah, c'est très bon basketball. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est voir des équipes qui sont moins aspirantes à être présentes, notamment la Heat de Miami qui a fini 8e de conférence. Fait que ce serait super intéressant de voir de ce côté-là. Puis aussi, c'est des très bons matchs en levant qui s'annoncent. Là. Juste Lakers, Nuggets, puis même si je remonte Lakers, Golden State, c'était probablement des très bons matchs à regarder. Puis je pense que,
c'est exceptionnel à voir.
Même les Lakers, je pense que Golden State, c'est probablement la série qui était le plus regardée, là, selon moi. Ouais. Puis c'est normal aussi, là, parce que c'est deux grands rivaux qui s'affrontaient, en LeBron et Stephen Curry. Là. Fait que c'est sûr que déjà de base, on est rendu habitué de voir des beaux affrontements de ce côté-là. Là, que ça soit... Puis aussi, en même temps, ça te fait rappeler aussi la finale que LeBron James était avec les Cavaliers cette fois-ci. Puis qu'il a affronté à main comme deux, trois fois les.
Ah, 58. 58, 2015, 2016, 2017, 2018. Ah, 4 ans. Non, c'était 4 ans.
4 ans, ok, c'est ça. Fait que ça va affronter 4 ans d'affilée. Là. On va voir Manuel qui est en train de faire ses calculs pour être sûr.
Ouais, je pense que ouais, là.
4-5 ans, on va dire ça comme ça. 4-5 ans.
Non, c'est 4 ans. Je pense que c'est 4 ans. Là, 2016, 2017, 2018. Non, 2015, 2016, 2017, 2018. Oh, ouais, c'est 4 ans.
C'est ça. 4 ans d'affilée qui s'affrontaient en finale de la NBA. C'est quand même assez impressionnant de voir ce côté-là.
Yes.
Bon, allez, merci beaucoup.
Merci à toi, Ali. C'était un plaisir comme d'habitude.
Ah oui, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Comme on l'a dit, on a du hockey, on a du basket, on va rouler en Formule 1 au Grand Prix d'Émile-Romagne en Italie. Sinon, on a du tennis, etc. On a du baseball qui joue encore. Les Blue Jays qui ont quand même une bonne... c'est une bonne séquence, là, les Blue Jays... qui réussissent à faire quand même un bon début de saison. Présentement, leurs 10 dernières rencontres, ils font une fiche de 6-4. Ça continue de ce côté-là du baseball. Bien évidemment, les Rays de Tampa Bay sont toujours premiers et de loin avec 31 victoires, avec un excellent début de saison de leur côté. Là. Ça va être intéressant de voir de ce côté-là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Mon nom est Villarose, je vous salue. Allez, salut! Ciao!